Décryptage, Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. À quoi ressemble la justice internationale 75 ans après l'ouverture du procès de Nuremberg? Voilà la question que l'on pose ce soir. Le 20 novembre 1945, 24 dignitaires nazis du Troisième Reich étaient jugés en Allemagne. Procès organisé par les puissances alliées, procès considéré comme la première pierre de la justice internationale. Alors depuis, plusieurs tribunaux ont été mis en place pour juger des génocides, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ou pour le Rwanda. Et aujourd'hui, et depuis 18 ans, la justice internationale est incarnée par la CPI, la Cour pénale internationale. Mais la CPI n'est pas universelle, elle n'est pas reconnue par tous les États. Et ainsi, la première puissance mondiale, les États-Unis, ont fait sous l'administration Trump beaucoup de mal à la Cour pénale internationale. Alors comment la justice internationale doit évoluer pour atteindre son objectif, à savoir que tous les auteurs des pires exactions dans le monde puissent être jugés équitablement? Soyez les bienvenus. Et pour répondre à nos questions, notre invitée est la vice-directrice de l'Académie internationale des principes de Nuremberg. Bonsoir Viviane Dietrich.
Bonsoir.
Vous êtes en ligne depuis l'Allemagne. Merci d'avoir accepté l'invitation de RFI. Ma première question, Viviane Dietrich, quel est l'héritage de Nuremberg? En quoi ce procès a posé les bases de la justice internationale telle qu'elle est aujourd'hui?
Merci beaucoup. Effectivement, Nuremberg est reconnu aujourd'hui comme berceau du droit international pénal. À l'époque, les nazis ont fait de Nuremberg la ville des congrès du parti nazi et des lois raciales. En 1945, les puissances alliées ont fait de Nuremberg la ville des procès de Nuremberg. Donc il y a une transformation remarquable qu'on voit aujourd'hui. Effectivement, la ville a affronté son passé et déclaré la ville des droits de l'homme et de la paix. Aujourd'hui, on regarde, c'était il y a 75 ans, presque jour par jour, le 20 novembre 1945, que s'ouvre le procès contre les principaux criminels de guerre dans la salle d'audience de la cour d'assises du palais de justice de Nuremberg, la célèbre salle Sisson. Et c'est là, effectivement, que le juge français Henri Dondieu de Vabre, avec ses homologues américains, britanniques et soviétiques, pose les fondements du droit international pénal. Effectivement... Dis-moi, juste après la fin des hostilités, ils ont entamé ce procès et aujourd'hui encore, ils posent les bases du droit international pénal. Effectivement, on voit qu'il y a la priorité qui est donnée à des crimes internationaux et c'est une innovation. On voit le rétablissement du droit après les atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est là que prend toute son ampleur l'héritage de Nuremberg et son influence pour d'autres procédures ultérieures, non seulement en Allemagne ou en France, mais dans le monde entier. Il y a la volonté politique des puissances alliées qui est vraiment la racine aussi d'un changement de paradigme. Comment traiter les criminels de guerre? Et on les a traduits en justice. Et donc ça, c'est très important. Depuis le procès de Nuremberg, on voit des principes de Nuremberg qui ont été entamés. C'est 7 principes formulés par la Commission du droit international sous l'égide de l'Assemblée générale des Nations unies. Et ils incarnent encore les principes qui sont le fondement des tribunaux internationaux aujourd'hui, même aussi les poursuites à l'échelle nationale.
Les fondements, les principes, comme vous dites, c'est la volonté de poursuivre pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. La notion de crime contre l'humanité, elle a été érigée à Nuremberg. Génocide également, ces notions datent de Nuremberg, c'est là que ces principes ont été érigés pour la première fois et qui valent encore aujourd'hui.
Effectivement, donc c'était une innovation juridique. Les mots ou les termes même ont été créés à l'époque. Donc le crime contre l'humanité, c'était la première fois dans le procès de Nuremberg que cette catégorie d'infraction nouvelle était à l'ordre du jour. La terminologie a changé, donc effectivement on parlait de crime contre l'humanité et de crime contre la paix. C'est rentré dans le lexique juridique international. Aujourd'hui, on parle de crimes d'agression et moins de crimes contre la paix. Mais effectivement, les crimes sont aujourd'hui encore, les crimes internationaux sont exactement les mêmes que reconnu en 1945 par le tribunal de Nuremberg. Effectivement, ce qui est frappant, c'est que la notion de génocide ne figure pas dans la charte de Londres, donc, qui est à l'origine du procès de Nuremberg, mais il fallait attendre en 1948 pour la convention contre la répression du génocide.
Et est-ce qu'aujourd'hui la justice internationale, elle est à la hauteur des enjeux internationaux pour juger justement les crimes d'aujourd'hui? Il y a de nombreux conflits dans le monde.
Il y a de nombreux conflits dans le monde, effectivement, et il y a un nombre assez limité de responsables qui sont traduits en justice. C'est là tout le défi structurel de la justice internationale. La volonté qui s'est manifestant de manière si claire à Nuremberg s'est vite avérée très ambitieuse, voire trop ambitieuse, au vu de la nouvelle constellation géopolitique avec la guerre froide qui a mis fin aux élans humanistes. Donc il fallait attendre le début des années 90 pour voir renaître les juridictions internationales. Aujourd'hui encore, le procès et les principes de Nuremberg ont servi bien évidemment de précédent historique pour d'autres procès d'importance majeure. À l'échelle internationale, il convient de faire référence ici au procès d'Eichmann, mais aussi bien évidemment le procès Barbie, Touvier, Papon en France, et bien d'autres nombreux procès en Allemagne jusqu'à aujourd'hui. Les conflits qui ont lieu aujourd'hui, on voit que le défi de notre temps est de continuer à soutenir l'idée de la justice pénale internationale inspirée par Nuremberg dans des situations radicalement différentes. C'est-à-dire, les combats perdurent ou menacent de reprendre. Les responsables sont en fuite. La collecte des témoignages et des preuves est très compliquée et la justice s'inscrit dans un contexte très politisé et clivant.
Et est-ce qu'aujourd'hui la CPI, la Cour pénale internationale, représente cette justice internationale?
Certes, la Cour pénale internationale représente la justice pénale internationale et c'est une voie pour les revendications ou les réclamations de justice. Ce n'est pas la seule voie, ça c'est important de dire aussi. Il y a de nombreux autres tribunaux qui existent, mais aussi il y a des poursuites à l'échelle nationale. Mais comme l'affirme déjà le préambule du statut de Rome, donc le traité fondateur de la Cour pénale internationale, c'est là que les États parties affirment, et je cite, que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale. Et on voit là que la Cour pénale internationale joue vraiment un rôle clé dans la poursuite et dans la lutte contre l'impunité. Certes, on voit que il a des défis structurels, des défis juridiques, des défis politiques. Et il y a cette aspiration à l'universalité qui rend la CPI unique.
Mais comment expliquer que des pays comme les États-Unis, je l'ai cité évidemment, la Russie, la Chine, l'Inde, n'ont pas ratifié le traité de Rome à l'origine de la Cour pénale internationale? Ce sont des obstacles essentiels à une justice internationale?
Tout à fait, c'est des obstacles essentiels et on voit un peu une coopération à la carte, si on peut dire. Donc on voit que surtout les États majeurs, les grands États qui coopèrent avec les juridictions internationales, si ça arrange leurs intérêts ou si ça dérange leurs intérêts, ils se retirent ou voire affrontent les institutions de manière directe. Effectivement, c'est une manque d'avoir le soutien des États. On a, de l'autre côté, on a 123 États parties qui ont signé, ratifié le statut de Rome, donc qui font partie de la Cour. Et effectivement, là, il faut insister que le manque d'universalité est bien sûr un handicap majeur pour la Cour.
Alors justement, illustration de ce manque d'universalité, on évoquait les États-Unis. On va écouter ce que disait Mike Pompeo à propos de la CPI. C'était en juin dernier, après que Donald Trump a annoncé des sanctions contre l'organisation, donc Cour pénale internationale, car la CPI a décidé d'enquêter sur des exactions commises par des soldats américains en Afghanistan. Mike Pompeo, donc le secrétaire d'État américain, qui ne mâche pas ses mots à propos de la CPI.
We cannot and we will not stand by Nous ne pouvons pas et nous n'allons pas rester inertes alors que les nôtres sont menacés par un tribunal fantoche. Et j'ai un message pour nos alliés à travers le monde. Les vôtres pourraient être les prochains, en particulier les pays membres de l'OTAN qui combattent le terrorisme en Afghanistan à nos côtés. Nous imposons des sanctions économiques contre les responsables de la CPI, directement engagés dans l'enquête menée contre du personnel américain ou allié sans autorisation de ces pays alliés. Les sanctions seront établies au cas par cas contre des individus ou des entités spécifiques. Deuxièmement, les États-Unis étendent leurs restrictions de visa aux personnes directement impliquées dans ces enquêtes. Et ces restrictions seront aussi appliquées à leurs familles.
Mike Pompeo, donc secrétaire d'État américain, à propos des sanctions américaines visant la CPI. Viviane Dietrich, il y a le fait, on l'a dit, hein, de ne pas reconnaître la CPI, donc comme les États-Unis. Mais comment expliquer le simple fait qu'un pays puisse imposer des sanctions à des responsables de la Cour pénale internationale?
C'est un développement vraiment incroyable. C'est très préoccupant. Ça a l'air que le décret qui a été signé par le président Trump, en ce sens, représente une sorte de riposte à la décision prise par la juridiction de la Haye de permettre l'ouverture d'une enquête pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Afghanistan. Et c'est-à-dire que c'est vraiment inédit, c'est une situation inédite de cibler les personnes spécifiques et les magistrats d'une institution internationale. Et bien évidemment, ça a des effets désastreux sur le rôle du droit et de vraiment respecter le droit, respecter les cours à pouvoir faire leur travail de manière indépendante.
Un effet inédit qui a un effet boule de neige, hein, puisque Donald Trump a donc pris un décret menaçant de placer sur liste noire toute personne impliquée dans cette enquête de la CPI sur l'Afghanistan ou dans toute affaire visant les alliés américains. Donc ça veut dire que les alliances qui aujourd'hui organisent la géopolitique mondiale ne peuvent pas être défaites devant la justice. Ça sonne comme un échec de la justice internationale.
C'est peut-être pas aussi un échec de la justice internationale, mais c'est bien évidemment un échec du fonctionnement et de la configuration actuelle du système qui se base sur la justice internationale. C'est-à-dire qu'on voit là encore la question de la volonté des États. Et le droit international pénal ne peut fonctionner avec et la volonté des États et la capacité d'ouvrir les enquêtes, mais aussi de, bien évidemment, donner tout le soutien à l'institution une fois qu'une affaire a été ouverte. Donc là, on voit un langage très confrontatif, un langage presque guerrier qui est choisi du côté de l'administration actuelle américaine, qui est encore une fois très préoccupant et qui est inédit. On a vu des nombreuses critiques vis-à-vis de ce langage choisi.
Est-ce que la CPI, en un mot, est représentative aujourd'hui de la justice internationale ou est-ce qu'il faudrait finalement contraindre les États à coopérer avec la CPI, peut-être créer une nouvelle organisation où il y a cette notion de contrainte?
Donc la Cour pénale internationale est aujourd'hui l'institution qui est la plus proche de la vision avec l'aspiration universaliste d'avoir une institution qui œuvre jour au jour pour lutter contre l'impunité et pour vraiment traduire en justice les personnes. Effectivement, il y a le problème de contrainte, comme vous l'avez dit et vous l'avez expliqué justement. Donc, c'est là toute la question de savoir comment les États vont aussi maintenant se comporter. Et je pense qu'il convient là de encore rappeler juste très brièvement le discours d'ouverture de Robert Jackson, donc le procureur américain, et c'est une phrase qui est devenue la phrase la plus célèbre de son discours d'ouverture qui est aujourd'hui frappant de se rappeler de ça. Donc il a dit, je cite, que 4 grandes nations victorieuses mais lésées n'exercent point de vengeance envers leurs ennemis prisonniers. C'est là un des tributs les plus importants qu'une puissance ait jamais payé à la raison. Fin de la citation. Et là, je pense qu'on voit aujourd'hui la primauté de la raison. Aujourd'hui, est plus important que jamais.
Décryptage sur RFI.
Notre décryptage ce soir consacré à la justice internationale 75 ans après le début du procès de Nuremberg. Notre invitée Viviane Dietrich, vice-directrice de l'Académie internationale des principes de Nuremberg. On a évoqué les États-Unis qui se dérobent évidemment face à la Cour pénale internationale. On va écouter à présent un extrait sonore d'Aung San Suu Kyi, sous le feu des critiques d'Aung San Suu Kyi sur la question des Rohingyas en Birmanie. C'était il y a près d'un an, la Gambie avait alors porté des accusations de génocide, non pas devant la CPI, mais devant la Cour internationale de justice, la CIJ. On va l'évoquer avec vous, Viviane Dietrich, mais d'abord on va écouter la défense de la conseillère spéciale de la Birmanie.
Gardez à l'esprit la complexité de la situation et les risques qu'elle fait peser sur notre sécurité et notre souveraineté. Dans ces circonstances, l'intention génocidaire ne peut pas être la seule hypothèse. Au terme de sa constitution, la Birmanie possède un système de justice militaire. Les cas de possibles crimes de guerre commis par des soldats ou des officiers doivent être jugés à travers ce système. À ce jour, aucun autre organe ne peut réunir autant d'informations fiables sur les faits survenus dans l'Arakan en 2017 que la commission indépendante mise en place par la Birmanie.
Alors, Viviane Dietrich, Aung San Suu Kyi soulève un point important. Vous avez évoqué dans cette émission les tribunaux nationaux. Les États-Unis, en tête, estiment qu'ils peuvent se faire justice par eux-mêmes. Mike Pompeo disait, je cite, « Quand nos gens n'agissent pas correctement, nous punissons nous-mêmes ces individus. » Qu'en pensez-vous ?
En fait, c'est un principe fondateur aussi de la justice internationale aujourd'hui. C'est à la base de la Cour pénale internationale, notamment le principe de la complémentarité, c'est-à-dire, a priori, les poursuites et les affaires sont jugées au niveau national et seulement s'il n'y a pas de volonté politique ou bien de capacité, ils sont jugés à l'échelle internationale. Et on voit aujourd'hui encore qu'il y a de plus en plus d'États qui prennent au sérieux leurs responsabilités. Certes, ça doit être des procès équitables, des procès légitimes et des procès véritablement cherchés à traduire en justice les responsables. Mais de plus en plus, on voit les États tiers aussi poursuivre les individus pour des crimes internationaux commis dans un autre État encore. Donc là, on parle du concept de la compétence universelle et au terme de ce principe, un État a la possibilité et parfois l'obligation de poursuivre un auteur soupçonné de crimes internationaux sans être lié par les crimes traditionnels de compétence territoriale ou personnelle. C'est-à-dire que les tribunaux peuvent juger des crimes commis en dehors de leur territoire, et ça, c'est le cas par exemple en Allemagne. Donc, il y a actuellement devant les juridictions allemandes des responsables du régime syrien. Et là aussi, on voit un très bel exemple de la coopération franco-allemande qui s'est mise en place. Notamment, on voit que la coopération judiciaire en matière pénale se fait dans le cadre d'une équipe d'enquête commune avec des pôles de crimes contre l'humanité et crimes de délits de guerre du parquet de Paris. Et là, on voit encore que cette coopération se fait à l'échelle nationale. Il serait erroné de négliger le travail important des juridictions nationales comme vecteur des principes de Nuremberg, notamment au regard du principe de complémentarité prôné par la CPI. Donc le futur du droit international, on dit parfois, se joue au plan national et c'est là encore qu'il faut vraiment voir les avancées considérables qui ont lieu. Et en France et en Allemagne et ailleurs.
Et en Allemagne, justement, ces procès du régime syrien, il faut le dire, sont les premiers visant le régime syrien parce qu'ils ne peuvent pas se tenir justement devant la Cour pénale internationale en raison du veto de la Russie. Merci beaucoup, Viviane Dietrich, vice-directrice de l'Académie internationale des principes de Nuremberg, d'avoir été l'invité du décryptage ce soir. La justice internationale, 75 ans après le procès de Nuremberg, on continue d'en parler sur RFI dans le grand reportage signé Pascal Thibault. Rendez-vous 19h40, temps universel. Merci à Eleanor Krenik qui était à la préparation de ce décryptage, Jérémy Boucher à la réalisation, la sonothèque, la documentation, comme chaque soir, qui a participé à l'élaboration de cette émission. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. Dans quelques secondes, vous avez votre rendez-vous avec le débat du jour avec Guillaume Nodin.